IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en Ile-de-France, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, et sur notre appli à travers le monde entier. Jacqueline Voraz avec Sabrina ce matin dans l'économie en direct. Bonjour Sabrina. Alors l'économie en direct aujourd'hui 29 novembre vous fait revivre notre plateau extérieur réalisé au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains hier 28 novembre, jeudi 28, pour couvrir les assises de l'innovation organisées par PUI CY Transfer, un département de l'Université de Cergy-Pontoise. Le PUI, un label très convoité par les universités d'excellence, pour dire à tous les innovateurs, eh bien maintenant, passez du rêve à la réalité. Et cette journée donc a été égrenée avec des interviews tout au long de la journée. Et nous allons donner la parole pour commencer à Olivier Romain, président de l'innovation et transfert de CY Cergy Paris Université et coordinateur du PUI CY Transfer.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct et ce matin nous avons le privilège d'être au Centre des Arts pour couvrir l'événement des assises de l'innovation de CY Transfer, du PUI CY Transfer. Et à notre micro pour démarrer cette belle journée, Olivier Romain, vice-président de l'innovation et transfert de CY Cergy Paris Université et coordinateur du PUI CY Transfer. Bonjour Olivier.
Bonjour Jacqueline.
Alors Olivier, ça y est, cette journée est enfin arrivée après beaucoup de préparation hein, que nous avons suivie ensemble. Une journée donc dédiée à l'innovation, une journée que vous avez voulu dynamique, stimulante et qui va privilégier les échanges. De quelle façon vous allez privilégier les échanges ?
Alors, merci Jacqueline en tout cas de cette opportunité d'être parmi nous aujourd'hui pour les assises.
C'est un vrai plaisir.
C'est notre bébé en fait, ça fait 2 ans qu'on y travaille de manière acharnée dessus avec nos partenaires et aujourd'hui on y est et on a voulu en fait ces assises agiles dans le sens où on veut favoriser les interactions entre les personnes qui seront présentes et en même temps ceux qui vont exposer, qui vont faire une rétrospective sur les actions qu'on a développées depuis le début de l'année dans le cadre du PUI avec au centre en fait de ces assises deux parties, on va dire la partie recherche innovation issue de nos structures de recherche, mais aussi mettre en valeur des entreprises et des dynamiques sur le territoire portées par des startups ou des industriels. Donc on va avoir tout un panel en fait d'intervenants et on va avoir différents outils qui vont être utilisés, des ateliers, des keynotes et de la projection de films aussi.
Des tables rondes, je crois, des plénières, bien sûr. Oui, parce que nous connaissons déjà depuis un petit moment, hein, Olivier, et moi j'ai compris à travers les différentes interviews que nous avons fait ensemble qu'il faut vraiment favoriser des synergies entre les chercheurs et les entrepreneurs, ce qui semble être un vrai défi.
C'est exactement ça. Aujourd'hui, Jacqueline, comme on a pu déjà le dire plusieurs fois à votre antenne, on a un vrai enjeu sur notre territoire, c'est d'arrêter ces silos. C'est-à-dire que il y a tout un panel en fait d'acteurs sur le territoire qui travaillent, on va dire, un peu pour leur paroisse, pour leur chapelle. On a besoin en fait de mieux s'articuler parce qu'en définitive, une entreprise qui est approchée par cet acteur et aussi approchée par un autre acteur, c'est contre-productif. C'est beaucoup plus productif en fait d'approcher cette même entreprise ou d'approcher un chercheur en même temps, ensemble, et de construire ensemble ce programme d'accompagnement.
Est-ce qu'il y a des innovations issues de votre structure qui ont déjà contribué au développement économique du Val d'Oise ?
Il y a des innovations issues du programme et c'est, je peux pas dévoiler tout de suite en fait ces innovations, mais on va terminer la journée par un effet d'annonce où on va vous présenter en fait des outils qu'on va mettre à disposition des acteurs du territoire. Notre territoire c'est le Val d'Oise, mais pas que le Val d'Oise, c'est aussi la Seine-Saint-Denis avec l'entrée de Sorbonne Paris Nord comme membre fondateur du PUI, mais on s'étend aussi jusque dans le 78 et puis on a des actions qui sont au-delà en fait de la région de France, puisque nos membres fondateurs sont aussi le CNRS et le CEREMA.
Très bien, oui, que nous citons également dans chaque fois, et je pense que nous allons pouvoir donner la parole à leur représentant tout à l'heure. Donc ce PUI, on peut dire qu'il va encore mieux accompagner les chercheurs dans la valorisation de leurs travaux.
Alors, le PUI, en fait, a deux enjeux. C'est d'accompagner ce qui sort de nos laboratoires, donc un accompagnement, en fait, issu de notre structure de recherche, et un accompagnement sur le territoire des entreprises ou des porteurs de projets de start-up pour qu'ils soient accompagnés sur des volets technologiques, des volets business, des volets marché, des volets de protection intellectuelle. Donc, c'est ces enjeux-là. Donc, deux cibles, en fait, hein, une cible interne, une cible externe.
Le véritable enjeu aussi d'aujourd'hui, c'est d'avoir pu réunir des personnalités influentes dans votre domaine et qui vont permettre le vrai rayonnement de ces assises.
Complètement. En fait, si on doit résumer une seule valeur portée par le PUI, c'est la confiance. La confiance qui est aujourd'hui témoignée par le nombre de personnes qui se sont inscrites pour ces premières assises. Environ 200 personnes se sont inscrites.
Oui, c'est une vraie réussite, absolument.
On a réussi aussi à faire venir les acteurs qui ne parlaient pas entre eux avant à venir au sein de ces assises pour qu'ils dialoguent, qu'ils nous rencontrent. Donc ça, c'est aussi un résultat pour nous.
C'est ça.
Et la confiance, c'est à nous de la construire. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine. C'est en travaillant ensemble qu'on va instaurer un climat de confiance entre ces acteurs, et c'est là où on va pouvoir avoir des effets de levier sur le territoire.
Olivier Romain, on vous souhaite une superbe journée pour ces assises de l'innovation et bravo encore pour cette belle réussite.
Super. Merci Jacqueline, en tout cas.
À bientôt.
Merci pour votre soutien.
Je vous en prie. Au revoir.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
En direct du Centre des Arts à Enghien-les-Bains pour ses assises de l'innovation, je donne la parole maintenant à Christophe Fouqueret, président de l'Université Sorbonne Paris Nord. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et merci de venir à notre micro.
Enchanté d'être là.
Alors Christophe, je vous laisse vous présenter.
Je suis Christophe Fouqueret, président effectivement de l'Université Sorbonne Paris Nord. C'est une université qui se situe principalement en Seine-Saint-Denis, sur les communes de Villetaneuse, Saint-Denis, Bobigny. Et c'est effectivement pour moi quelque chose de très important que d'être ici et de participer à cette construction de PUI.
Comment l'Université Sorbonne-Paris-Nord contribue-t-elle au développement des compétences nécessaires pour soutenir les industries innovantes?
C'est une très bonne question par trois aspects, quatre aspects. La première chose... La première chose, c'est évidemment sur la formation des étudiants. Former les étudiants, c'est pas simplement leur apprendre un métier, c'est aussi finalement leur inculquer l'envie d'innover dans ce que seront leur métier après, mais aussi dans la vie de tous les jours finalement, d'avoir des idées. Le deuxième aspect, c'est évidemment à travers tous les chercheurs et enseignants-chercheurs qu'on peut avoir à l'université, que de développer concrètement ces aspects innovation. Et puis trois autres aspects qui sont liés plus directement au PUI peut-être. D'abord, on participe très largement à ce qui s'appelle une pépite.
Oui.
Alors pépite, c'est un terme un peu complexe. Je me rappelle plus l'acronyme, mais globalement.
Oui et non, parce que je trouve que c'est très parlant la pépite, quand même.
Oui, l'acronyme est très joli, mais par contre développer l'acronyme.
Ah oui, c'est un acronyme, oui, d'accord.
Un acronyme. Mais globalement, il s'agit de former les étudiants à l'entrepreneuriat. C'est la première étape finalement, aussi à côté de l'innovation qu'on peut avoir, des idées nouvelles qu'on peut avoir, et de former effectivement les étudiants à l'entrepreneuriat. Le deuxième niveau, c'est d'avoir un incubateur. Il y a un incubateur dans l'université, et c'est ça qui permet effectivement, du coup, de, on en parlait tout à l'heure, d'avoir des projets de start-up, des idées simplement, que ça vienne des étudiants ou que ça vienne des enseignants-chercheurs ou des chercheurs directement. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important qu'on puisse avoir cet aspect-là qui est très lié à l'innovation. L'innovation, sur des angles très différents, il s'avère que l'Université Sorbonne-Paris-Nord est extrêmement pluridisciplinaire. Il y a à peu près un tiers en sciences humaines et sociales, un tiers en ce qu'il appelle en sciences exactes, mathématiques, physique, chimie, etc. et informatique. Et puis un tiers aussi en santé. En santé et tous les aspects relatifs à la santé. Et là, quand on regarde ce qu'il en est dans l'entrepreneuriat d'innovation, on pense souvent les aspects très technologiques, bidouille en physique, etc. Mais ça peut être aussi des aspects liés justement aux sciences humaines et sociales qui sont aussi très importants.
Oui. J'ai pu avoir l'opportunité d'interviewer Christelle Ventura sur l'importance aujourd'hui de ces sciences humaines, et on comprend que c'est un véritable atout dans ces recherches.
Oui, je donnerai juste un exemple d'innovation dans ce domaine-là. Innovation sur les aspects apport en termes de santé, mais pas directement en termes de psychologie, pour aider les patients à mieux comprendre la raison d'être de leurs médicaments, des posologies qu'on leur offre. C'est vraiment quelque chose de complémentaire qui est vraiment très utile, et c'est un savoir-faire, une manière de faire sur laquelle il y a de l'innovation, effectivement.
Très bien. Pouvez-vous nous citer des partenariats que vous auriez développés avec des acteurs du territoire pour favoriser l'innovation ?
Oui, alors d'abord, l'université est située pour une grande part sur le territoire de Pleine Commune Promotion. Pleine Commune Promotion, c'est effectivement un ensemble d'entreprises du territoire. On a une convention avec Pleine Commune Promotion et avec l'idée de développer des partenariats privilégiés avec les entreprises, en particulier les entreprises liées au dessin animé, puisqu'il y a et tous les aspects liés à ça. Je pense aussi à un partenariat avec L'Oréal, évidemment. Qui a un centre R&D sur le territoire, pour là aussi faire du transfert de savoir-faire entre l'université vers L'Oréal, mais aussi l'inverse, de l'entreprise vers l'université.
Merci infiniment, Christophe Foucré, d'être venu jusqu'à notre micro, et je vous laisse retourner profiter de tous les instants qui vont avoir lieu maintenant.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup, merci, au revoir.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Nous revoilà au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains pour ces Assises de l'innovation, une première édition, un événement unique qui se déroule donc dans notre belle ville d'Enghien-les-Bains. Et à notre micro, tout de suite, Dominique Roland, directeur du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Merci de venir à notre micro. Alors Dominique, une belle journée pour vous, un événement phare que ces Assises de l'innovation.
Je crois que c'est un raccord très juste. Les Assises de l'innovation vont se conjuguer très bien avec les activités du Centre.
Complètement, oui. C'est complètement ce que je me suis dit quand j'ai su que ça allait se pas complètement raccord avec votre activité.
Parce que l'établissement que je dirige, c'est un établissement art et création par le ministère de la Culture, qui est donc un établissement d'intérêt national. Mais l'innovation est un élément qui fait partie de nos objectifs, et nous devons, à travers notre écosystème, c'est-à-dire à travers notamment l'incubateur, les entreprises que nous accueillons, et bien d'être à ce rendez-vous et d'amener avec les technologies, puisque c'est un des sujets, comment ce qu'on appelle aujourd'hui le théâtre augmenté, les nouvelles scénographies, l'intelligence artificielle, la robotique.
Oui, on manque pas de sujets.
Que ça soit dans la danse, dans la muséographie, sur tous les sujets.
Vous êtes en train de nous dire que les arts et la culture peuvent stimuler les dynamiques d'innovation, notamment dans des domaines comme le numérique ou la deep tech.
Exactement, c'est-à-dire que aujourd'hui, notre approche en tant que lieu culturel et artistique, c'est un lieu qui est tourné vers les industries culturelles et créatives. Donc là, on parle évidemment non seulement de richesse, de création de richesse, mais création d'emplois. On peut parler aussi de façon plus concrète encore, je dirais d'innovation et d'innovation sur des terrains qui touchent à la fois le cinéma, l'image, puisque nous organisons maintenant l'événement majeur en France qui s'appelle le PIDS, le Paris Image Digital Summit, qui est l'événement majeur des effets spéciaux, que nous organisons également les bains numériques, qui est un rendez-vous international sur les arts numériques, que nous avons effectivement ce Numérique Lab, c'est-à-dire nous accueillons pas seulement des start-up, mais des projets des projets qui sont tournés vers l'innovation à travers l'expérimentation d'usage également et aussi le prototypage de projets qui vont de réalité virtuelle, de métaverse, d'utilisation de l'IA sous toutes ses formes.
Des projets innovants que vous pouvez intégrer dans vos programmes.
Qui sont intégrés dans nos programmes et qui font partie de notre ADN.
C'est ça. Alors aujourd'hui, ces assises de l'innovation sont un nouveau rendez-vous dont on espère qu'il se renouvellera tous les ans maintenant. Lorsque vous avez su que ça allait se passer au Centre des Arts, votre réaction ?
Écoutez, tout de suite, c'est un accueil sans hésitation. Je dirais que c'est une très belle initiative, à la fois CY Transfer et puis l'université de Sorbonne Paris Nord, enfin et tous les partenaires, bien sûr. Je ne peux pas.
Oui, non, ils sont très nombreux.
Mais ils sont très nombreux. C'est un travail d'équipe. On voit que effectivement le département, le territoire, le Val d'Oise est présent et aux avant-postes, je dirais, sur des sujets qui sont des sujets stratégiques aujourd'hui, parce que nous devons, dans le paysage et dans notre société, renouveler à la fois les formes, je dirais, d'entreprise, sur tous les sujets, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je crois que c'est multisectoriel, tous les secteurs d'activité économique, à tous les niveaux, à toutes les strates de la société, sont impactés. Donc, en étant impacté, cela veut dire aussi de nouveaux services. Ça veut dire aussi, de l'innovation, avant tout.
Et puis aussi de l'emploi, probablement, dans notre territoire, puisque c'est aussi un des objectifs de
oui,
l'économie.
Je crois que sur le territoire, l'objectif est bien entendu va se situer et dans le sens où il est important que les universités, et en particulier CY Tech, qui est une université qui maintenant en France est d'ailleurs classée dans les 10 premières universités d'ingénieurs.
Oui, dans les universités d'excellence.
Voilà,
oui.
D'excellence. C'est vrai que tout commence par la formation. Et ensuite, évidemment, de mettre à l'honneur, je dirais, d'autant plus que le Val d'Oise est une terre aussi d'innovation et surtout tourner aussi vers l'international. Je pense qu'il y a aussi cette résonance, c'est-à-dire d'apporter nos savoir-faire créatifs, savoir-faire d'entreprise entreprise innovante à l'international.
Merci Dominique Roland. Que faut-il vous souhaiter aujourd'hui ?
Écoutez, c'est une belle journée, d'autant plus d'abord il fait beau.
Oui, on a le soleil bien.
Pour les auditeurs, c'est important de savoir qu'il y a un beau temps, qu'il y a une très belle initiative aujourd'hui sur ces assises de l'innovation. Ça fait surtout dans les temps en ce moment où ils sont un peu troublés. Et puis pour le Centre des Arts, c'est aussi un moment de rapprochement avec ces assises de l'innovation pour regarder vers l'avenir, comment nous pouvons aussi être un contributeur efficient aux côtés des assises de l'innovation.
Complètement un moment de visibilité supplémentaire et complémentaire, je dirais.
Merci.
Merci beaucoup Dominique Roland.
Bonne
journée. IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
C'est toujours l'économie en direct, aujourd'hui au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains où se déroulent les Assises de l'innovation, un événement unique et dont c'est la première édition. À notre micro, maintenant, Monsieur le maire d'Enghien-les-Bains, Philippe Seur. Bonjour Philippe.
Bonjour Jacqueline.
Merci
aux auditeurs, auditrices.
De pouvoir vous libérer quelques minutes pour nous donner un petit peu votre sentiment par rapport à cet événement prestigieux que sont les Assises de l'innovation.
Oui, alors il y a un sentiment évidemment de positif et même de grande satisfaction parce que l'innovation est aujourd'hui au cœur de toutes les politiques, politiques sociales, politiques industrielles, bien sûr administration. La question en revanche qui demeure pour un élu, pour moi personnellement, c'est quelle limite que je qualifierais de psychosocial,
oui.
L'innovation, parce que la fuite en avant pose vraiment la question de la liberté. Je pense à ces débats autour de l'iPhone et du paiement. On en parlait il y a quelques jours encore de la suppression des cartes bancaires au profit donc du paiement par l'iPhone. À un moment donné, c'est la liberté de choix de l'individu et surtout sa dépendance à la fiabilité technologique. Donc, et à la sécurité, dans toutes ces questions qui sont liées au numérique, il y a forcément, bien sûr, l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'intelligence artificielle s'il n'y a pas de data center. Or, les data centers relèvent de souveraineté qui ne sont pas nécessairement nationales.
Complètement. Et puis, dans ces temps de restriction d'énergie, enfin d'économie d'énergie, c'est aussi un vrai problème. Oui.
C'est une vraie question. En Val-d'Oise, on vient de mettre en route, il n'y a pas très longtemps, c'est le groupe Iliad qui en est propriétaire, et c'est d'ailleurs une transformation, un recyclage, on va dire, de bâtiments qui était le tri de la poste à Saint-Ouen-l'Aumône, qui est devenu un data center, avec une conception de refroidissement absolument révolutionnaire, qui économise l'énergie de manière absolument fantastique.
D'accord. Voilà. Ah oui, écoutez, merci de nous faire cette déclaration. Alors, Enghien-les-Bains, c'est une ville qui est connue pour tout son côté très touristique et puis très agréable, mais c'est aussi c'est un territoire propice à l'innovation.
Oui, nous l'avons voulu comme tel, parce que Enghien-les-Bains a une particularité, bien sûr, vous venez de le rappeler, qui est liée donc à son histoire touristique, ludique, les jeux, de la santé, puisque ça démarre.
Oui,
l'origine de notre ville, c'est le thermalisme. Et s'il n'y avait pas eu les sources et les établissements de thermes du 19e siècle, je dis les, et il n'y aurait pas eu la création de la commune en 1850. Mais nous sommes sur un tout petit territoire. Tout petit, 174 hectares, quand vous avez enlevé les 44 hectares du lac, il en reste 130. Donc nous n'avons pas, nous, de zone économique. Notre zone économique est commerciale, touristique et culturelle. Mais une zone économique industrielle, nous n'en avons pas.
Bien sûr.
Ce qui veut dire que les communes qui ont pu, en d'autres temps, faire le choix d'un développement industriel et technologique, avec des terrains propices. Nous n'avons pas eu. Donc, nous nous sommes en quelque sorte recentrés sur la fonction culturelle en y associant les nouvelles technologies. Ça fait 20 ans que le Centre des Arts s'est ainsi engagé. Il a été créé il y a 23 ans maintenant. Et très vite, autour de l'image et du son, nous avons pris le tournant et des nouvelles technologies, notamment en termes d'image.
Oui, nous venons de l'évoquer avec Dominique Roland. On a évoqué toutes ces nouvelles technologies qui maintenant sont partie intégrante de leur programme au Centre des Arts.
Oui. La vraie question, c'est d'être toujours au bon niveau.
Oui.
Ça coûte beaucoup d'argent. Nous n'avons pas, nous, un véritable écosystème, c'est-à-dire d'avoir le relais industriel qui crée à la fois des emplois et des recettes fiscales, tout au moins de nature professionnelle. Mais nous devons donc à chaque fois financer. On n'a pas d'autofinancement, nous devons financer par le budget communal. C'est une chance aujourd'hui et je crois que c'est une redistribution légitime au profit à la fois de ce mécénat artistique mais aussi des spectateurs, des auditeurs, donc des bénéficiaires d'un tissu culturel pour être à la hauteur. C'est ça la grande question.
Mais vous y arrivez parfaitement.
Oui, mais je vous dis bien,
vous pensez qu'il y a encore des efforts à faire.
On est un peu au plafond parce qu'on ne peut pas aller plus. Parce que là où nous étions uniques, il y a 20 ans, dans le domaine notamment de l'image, de la 3D, des hologrammes, quand on a créé IA avec nos amis japonais de Sapporo, nous étions uniques. En France, on était les seuls. Aujourd'hui, il y en a partout.
Oui, mais peut-être que vous avez de l'avance fait de votre...
C'est bien cette question. Et pour avoir de l'avance, il faut mettre de l'argent.
Oui, d'accord.
Et là, sur le budget...
Le nerf de la guerre.
C'est le nerf de la guerre. Et on peut dire que nous sommes au taquet.
Merci infiniment, Philippe Sœur, d'être venu à notre micro et très bonne journée.
Merci beaucoup.
Merci.
IDFM Radio, 98 FM.
À notre micro de l'économie en direct, à présent, Guillaume Berthelot, Operating Partner chez Deep Tech Founders. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Guillaume, peut-être quelques mots pour vous présenter à nos auditrices et auditeurs.
Pas de problème. En quelques mots, alors moi je viens d'un background très scientifique à la base, donc j'ai fait un doctorat sur la tâche de café, si ça vous intéresse.
Ah oui.
Et puis ensuite j'ai dérivé vers la bulle de savon pour ensuite m'orienter un peu plus sur des thématiques un peu plus orientées business. Je suis passé par un cabinet de conseil en stratégie avant de rentrer dans le monde de la valorisation. Et c'est à travers cette expérience du monde de la valorisation que, avec plusieurs collègues et plusieurs entrepreneurs, on s'est rendu compte de la difficulté institutionnelle d'accompagner les chercheurs vers la création d'entreprises. Et c'est ça qui nous a poussé à créer donc la société Deep Tech Founders et le programme Deep Tech Founders qu'on a créé en 2018. On est aujourd'hui la 13e promotion. On a accompagné à peu près 500 projets de start-up.
Bravo.
Aujourd'hui dans une dizaine de pays en Europe. Et c'est un peu cette expérience-là qu'on voulait retransmettre aujourd'hui pour les assises de l'innovation.
Aux assises de l'innovation. Alors, est-ce que vous voyez le PUI, donc puisque c'est vraiment le PUI CY Transfer hein, qui organise ces assises de l'innovation, le voyez-vous comme un acteur clé pour connecter les startups au financement ?
Je pense que c'est surtout un acteur clé pour rendre possible mentalement l'idée d'entreprendre chez beaucoup de chercheurs.
Oui.
C'est-à-dire que, en fait, l'idée du financement, finalement, c'est de la technique.
Oui.
C'est des choses qu'on peut apprendre. C'est pas si compliqué que ça. Ce qui compte, c'est de se dire,
c'est d'avoir l'envie d'entreprendre.
L'envie, mais aussi un espace mental qui fait que c'est possible, qui fait que, ah ben, en fait, au sein du PUI, j'ai vu quelqu'un qui l'a fait et qui est arrivé et qui a créé une boîte de 50, 100, 200 personnes. J'ai vu quelqu'un qui sortait du laboratoire et qui a monté son entreprise. Et je pense que c'est surtout ça et l'accompagnement des premiers pas. Après, la question du financement, l'argent, c'est le nerf de la guerre.
Oui, c'est ce que nous venons de dire avec le maire d'Anguin.
Mais derrière ça, je pense qu'il faut pas résumer ça à une histoire d'argent, il faut plutôt résumer ça à une histoire d'envie, à une histoire humaine et à une histoire de compétences.
Oui, et en même temps, créer son entreprise n'est pas forcément donné à tout le monde, donc c'est vrai que c'est un pas à franchir.
C'est pas donné à tout le monde, c'est en fait c'est une prise de risque aussi.
Oui.
Il y a toujours une question d'envie et de compétence dans tous les métiers.
Oui, quels qu'ils soient.
Quels qu'ils soient. Et donc, ce qu'il faut donner, les compétences, ça s'acquiert. Alors, tout le monde, c'est pas parce qu'on se dit je vais jouer au foot que je
vais.
Oui.
Bien sûr, il faut quelques dons ou quelques. Oui.
Mais il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Mais je pense que la compétence, elle s'acquiert de base. Ce qui va être intéressant dans le PUI, c'est justement de pouvoir montrer que c'est possible, de pouvoir générer l'envie et ensuite de mettre les outils d'accompagnement qui vont faire progresser les gens vers la capacité à aller décrocher des financements. Parce qu'au final, quels que soient les financements initiaux, quand on va être face à un investisseur, c'est deux humains qui se parlent. Hein.
Donc pour vous, c'est les critères à prioriser pour soutenir les projets liés à la deep tech restent ce besoin fondamental d'initier les chercheurs à devenir chefs d'entreprise.
Alors, je pense que qu'on s'entend bien. Tous les chercheurs sont pas faits pour être chefs d'entreprise, et tant mieux parce qu'il faut des chercheurs.
Oui.
C'est un métier formidable. Et on voit des entreprises qui marchent très bien aussi avec des chercheurs qui ont un rôle un peu plus restreint. Mais ce qui va être important, ça va être de pouvoir faire en sorte que ces chercheurs puissent au moins comprendre qu'est-ce que ça veut dire créer une entreprise. Et s'ils n'y arrivent pas, au moins Ils pourront aller chercher les compétences qui leur manquent. Et c'est beaucoup plus facile de se dire je vais m'associer avec quelqu'un qui a tel ou tel profil quand on a essayé de le faire. C'est comme si on se dit moi je vais recruter un chercheur un ingénieur en cryogénie. Mm-hmm. Si je sais pas ce que c'est qu'un frigo.
Bien sûr.
Je vais recruter quelqu'un au hasard. Et c'est pareil, quand on dit je vais m'associer avec quelqu'un, si j'ai jamais essayé moi de faire les choses, si je comprends pas ce que c'est que le métier, l'association, elle va être beaucoup beaucoup plus compliquée. Donc même si ces chercheurs, ils sont pas voués à devenir eux-mêmes des entrepreneurs, au moins pour comprendre et pour aller trouver les bonnes personnes qui vont pouvoir reprendre leur projet, c'est très important qu'ils aient essayé.
Dans votre activité, est-ce que vous observez la mise en pratique de la recherche fondamentale à l'application industrielle?
Alors nous, on a des superbes exemples, oui, de choses qui sont très très fondamentales. On a beaucoup travaillé avec des startups du quantique, par exemple,
donc, oui,
quantum computing, des processeurs quantiques. On a travaillé avec Pascal, on a travaillé avec Alice et Bob, avec C12, avec Willink, Quobly en France, et puis avec d'autres aux Pays-Bas, en Allemagne. Et ça, c'est alors aujourd'hui, il faut être très prudent quand, oui, on parle d'ordinateur, oui, quantique, hein, mmh, parce que on est encore assez loin.
Au balbutiement, oui.
On est assez loin de l'industrialisation, mais c'est un superbe exemple d'applications que nous on voit au quotidien de la recherche très très fondamentale. On parle du prix Nobel il y a 2 ans, on reste très très fondamental, mais qui va vers l'industrie, et on sait que ça va avoir un impact. Et on le voit aussi par exemple avec des gens qui sont autour de l'intelligence artificielle. Alors pas l'intelligence artificielle, c'est pas du ChatGPT, mais on va commencer à voir des nouveaux médicaments qui sont en train d'être testés et qui ont été générés seulement par l'intelligence artificielle.
Oui, j'ai même entendu dire récemment que en Chine des par exemple des diagnostics médicaux pouvaient être réalisés avec l'intelligence artificielle.
Il n'y a pas besoin d'aller en Chine, hein. Moi je peux vous donner l'exemple,
parce que comme il manque de médecins,
je peux vous donner l'exemple d'une très belle boîte française, alors qui est plus française, qui s'appelle Sonio, que nous on a accompagné il y a 3 ou 4 ans, qui a été racheté par Samsung en mai, je crois, pour une centaine de millions d'euros, et qui eux utilisent l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle la computer vision pour analyser des images d'échographie et pour aller interroger d'éventuelles malformations des fœtus, d'éventuels problèmes des problèmes pendant la grossesse, tout en sachant que aujourd'hui, je pense que nulle part dans le monde, une intelligence artificielle ne fait de diagnostic.
Oui.
Elle donne des indices,
des tendances.
Mais derrière chaque diagnostic, il y a toujours un médecin.
Voilà, et ne jamais oublier l'humain dans dans ce domaine. Merci infiniment,
merci
Guillaume Berthelot.
Merci
et puis
à vous.
Très belle journée,
journée à
ces assises. Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
C'est l'économie en direct et comme vous le savez, ce matin, nous sommes en direct au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains pour les Assises de l'innovation, une journée unique pour cette première édition. Et à notre micro tout de suite, pour cette journée dédiée à l'innovation, Marie-Odile Dubois, directrice adjointe en charge du développement économique CY Transfer et en charge d'animer un consortium d'acteurs sur un périmètre territorial. Bonjour Odile.
Bonjour.
Alors Odile, ça y est, cette journée est enfin arrivée. Ça a été beaucoup de stress, je crois, pour toute cette organisation.
Disons que c'est le grand événement du pôle universitaire d'innovation. C'est un événement qui avait été mis à notre feuille de route, donc on était absolument tenu d'organiser cet événement dans les délais qu'on avait donnés au gouvernement, puisqu'en fait un pôle universitaire d'innovation, c'est un label qui nous est décerné sur la base d'un programme. Donc on remplit notre programme, et aujourd'hui c'est le grand jour.
Très bien. Donc, vous avez réussi à fédérer plusieurs personnalités, des chercheurs, des entreprises. Comment la journée, expliquez-nous un petit peu comment la journée va se dérouler.
Alors, en fait, le défi d'un pôle universitaire d'innovation, c'est effectivement d'augmenter, je dirais, la surface de contact qui existe déjà, hein, entre le monde académique et le monde des entreprises, mais de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'accroche entre ces deux mondes, qu'ils se parlent plus et mieux, de manière à accélérer la sortie des innovations de l'université vers le monde économique. Et donc, pour ça, il faut réunir des acteurs qui sont dans des mondes différents, hein. Donc, on a aujourd'hui des personnes qui sont du monde de la recherche, et notamment Guillaume Berthelot, qui interviendra ce matin. C'est quelqu'un qui a fait sa spécialité, vraiment, d'accompagner les chercheurs académiques pour qu'ils créent des entreprises ou pour qu'ils trouvent des partenariats. Mais on aura également un regard, je dirais, de ce sens de l'université vers l'extérieur, des personnes de l'extérieur qui sont habituées à travailler avec les entreprises, comme les réseaux. On a le réseau Initiative 95-78.
Oui, le réseau Entreprendre, voilà, j'ai vu également.
Exactement. Ouais. On a le MEDEF, la CPME.
La Chambre de commerce et d'industrie de
Val-d'Oise. Tous ces organismes qui ont l'habitude de travailler avec les entreprises, on va essayer justement de les amener dans l'autre sens, un peu plus vers l'université. Donc, il a fallu réunir toutes ces personnes qui vont intervenir dans des tables rondes ou dans des interventions, de manière à ce que le public qui est présent aujourd'hui voit vraiment les deux sens de fonctionnement de cet échange. Et qu'on n'ait plus l'image du chercheur qui est dans son laboratoire ou l'image de l'entrepreneur, je dirais, qui s'affranchit un peu de règles pour aller à fond, gagner ses marchés. Donc on a des stéréotypes qui ont éclaté maintenant quand même depuis quelque temps.
Mais... Même si j'ai cru comprendre qu'il y avait encore du travail.
Oui, c'est un travail en fait, c'est un peu comme de la traduction ou de l'interprétariat. Il ne faut pas seulement traduire les mots, il faut aussi traduire la culture de chacun.
C'est ça. Et vous y travaillez ardemment en ce moment. Donc ça va, vous êtes quand même rassurée là, maintenant qu'on est en plein dedans.
On a eu 200 inscrits, donc qui est déjà
un vrai défi.
On franchit une marche, je dirais, depuis la dernière journée qu'on avait organisée au mois de juin avec nos partenaires, et où on avait eu 70 inscrits, 70 personnes. Donc là, on multiplie par 3. Les gens ont répondu présents malgré les problèmes de transport. On a la chance aujourd'hui d'être en Enghien-les-Bains, donc effectivement, la ligne H était en perturbation ces derniers jours, mais ça a bien fonctionné. Donc oui, on est confiant, et puis ça a été travaillé, retravaillé.
C'est un beau programme.
Ça roule.
Absolument. Merci beaucoup, Odile, et puis à très bientôt.
À bientôt.
IDFM, 98FM.
C'est l'économie en direct, toujours présente donc aujourd'hui, jeudi 28 novembre, au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, pour ses premières assises de l'innovation du PUI CY Transfer. Et à notre micro, tout de suite, Luc Bousquet, directeur délégué à la recherche du CEREMA. Bonjour Luc.
Bonjour.
Luc, je vous laisse vous présenter auprès de nos auditeurs et auditrices.
Avec plaisir. Donc moi, je suis effectivement Luc Bousquet, le directeur délégué à la recherche du CEREMA, comme vous venez de le dire. Et donc mon travail dans cet établissement public consiste à développer et structurer en fait l'activité scientifique de l'établissement, qui représente à peu près 10% de l'activité, puisque le CEREMA en fait est une agence de l'État qui est sous tutelle du ministère de la Transition écologique, et dont le travail principal est d'aider les territoires et effectivement les grands services de l'État à anticiper les effets du changement climatique et donc de préparer en fait l'aménagement du territoire de demain dans nos grands domaines d'intervention que sont la mobilité, les transports, les infrastructures, le bâtiment et la prévention contre les risques naturels, ainsi que tout ce qui concerne la mer et le littoral et les impacts que va avoir le changement climatique sur toutes les infrastructures qui sont en bord de mer et en bord de rivière, par exemple.
Donc, beaucoup d'activités en perspective.
Alors, un sujet d'actualité, beaucoup d'activités en perspective, effectivement, et des questionnements nouveau qu'il faut effectivement traiter de manière scientifique, puisqu'en fait on est face à des phénomènes inédits,
oui,
par leur ampleur et leur impact. Et donc il y a besoin de recherche pour comprendre ce qui est en train de se passer, puisqu'on ne peut pas s'appuyer sur la simple observation des phénomènes antérieurs. En fait.
C'est ça, oui, oui, ce qui était le cas jusqu'à présent.
Bah, la météorologie était d'abord une science de l'observation, et comme dans d'autres domaines, en fait, ce qui était une donnée est devenu une variable, et donc ça change complètement la façon d'envisager effectivement l'observation en fait de la Terre.
Alors, parce que chez IDFM Radio, on suit CY Transfer depuis plusieurs années, nous savons que vous êtes un partenaire,
oui,
important, et notamment avec ce nouveau label du PUI. Mm-hmm. Quel impact entre le CEREMA et puis le CY Transfer?
Le fait d'être partie prenante de ce projet est une continuité logique, finalement, d'un engagement auprès de Sergi, puisque en fait appartenir à CY Transfer, c'est une étape supplémentaire après avoir effectivement créé une équipe de recherche en commun avec Sergi, après avoir répondu à un appel à projet qui a été lauréat du PIA4 et donc qui s'appelle CY Generation. Et en fait, finalement, on poursuit, on développe, on renforce nos collaborations avec l'Université de Sergi dans nos domaines d'intervention. Et donc, ça paraissait naturel, effectivement, de s'impliquer dans CY Transfer, puisque ça correspond aussi à une de nos missions, c'est-à-dire que la vocation du CEREMA, c'est bien d'accélérer le transfert des connaissances vers l'action, notamment l'action publique, puisque nous sommes en appui auprès des collectivités et de l'État. Et donc, le format des pôles universitaires d'innovation, les pôles universitaires d'innovation, il correspond complètement à une de nos vocations.
Une journée comme aujourd'hui, les assises de l'innovation, ça vous paraît incontournable?
En ces temps de renforcement ou de développement des échanges à toutes les échelles de temps et d'espace, et en ces temps de virtualisation de nos échanges, c'est évident que c'est important de temps en temps de se rencontrer physiquement pour se connaître mieux, pour comprendre qu'est-ce qui est en jeu. Et effectivement, ce type de rencontre, il est certainement nécessaire et utile. Parce que sinon, on échange, on bâtit des projets, mais comme on doit faire en sorte que ces projets,
vivre.
Ça les fait vivre certainement mieux, et surtout en étant dans des positions où on travaille sur que vont devenir nos territoires, ça paraît difficile de se dire qu'on va travailler sur un territoire sans venir le parcourir physiquement.
Est-ce que vous auriez un exemple à nous citer par rapport aux recherches que fait le CEREMA par rapport à ces nouvelles données sur le changement climatique?
Il y en a plein, mais je vais prendre un exemple,
oui,
qui est un peu dans notre cœur de compétence. Tous les territoires, tous les départements notamment, et tous les gestionnaires routiers dans leur ensemble sont confrontés à des questionnements un peu vertigineux sur comment on va effectivement mieux entretenir et préserver en fait le patrimoine routier,
oui,
qui est un outil de communication assez ancien, parce qu'avant les réseaux,
oui,
virtuels...
Oui, donc vous travaillez sur la mobilité.
Exactement, oui, et sur la perturbation des systèmes de mobilité, et donc très concrètement, comment effectivement nos routes, nos chemins, nos infrastructures routières vont effectivement passer un certain nombre de chocs climatiques. Et donc, d'une manière simple, comment aujourd'hui on est capable de mieux appréhender la dégradation de ces routes, et comment on peut le faire avec des outils qui permettent de faire des diagnostics beaucoup plus rapides et beaucoup plus massifs, parce que pour un département moyen, avoir 4000 km de route à entretenir dans son département, aujourd'hui, il n'est pas concevable ou pas possible de se dire que tous les ans, on va parcourir l'ensemble
du
réseau.
Bien sûr, évidemment.
Et donc, on a développé des outils de scan à grand rendement, de façon en fait scanner la route de manière très très précise, la route et ses abords, pour en fait ensuite identifier avec des méthodes numériques, quels sont les défauts, où est-ce qu'ils sont, de quelle nature ils sont, de façon à ensuite proposer une cartographie d'une manière très rapide qui identifie l'ensemble des points qui posent question. Et donc, on peut aller directement sur ces points-ci sans avoir à effectivement parcourir l'ensemble du réseau. Et en caractérisant les défauts qu'on a constatés et en suivant cela dans le temps, on peut par exemple... caractériser des défauts mineurs dont on sait qu'ils vont devenir ensuite plus graves. Et donc, on peut faire de la gestion anticipée, non seulement en repérant les points problématiques qu'il faut traiter maintenant, et en identifiant aussi les points qui devraient être regardés de plus près pendant les 2-3 ans qui viennent, parce que ces défauts mineurs peuvent conduire ensuite à des défauts majeurs.
Et alors, je pose une question peut-être... je ne sais pas si c'est une bonne question, mais est-ce que...
Toute question est bonne.
Est-ce que ça pourrait même amener à imaginer un nouveau revêtement pour les routes?
Alors ça, c'est aussi des sujets sur lesquels on travaille, parce qu'effectivement, le cycle gel-dégel, la sécheresse, le retrait-gonflement de l'argile qui est sous la route dans tout un tas de secteurs en France, amène à se poser des questions sur comment sont faits ces revêtements routiers. Et on a aussi effectivement une équipe de recherche et des partenariats scientifiques avec d'autres établissements pour travailler sur la qualité notamment des bitumes, la capacité qu'on a à faire des bitumes qui sont beaucoup moins consommateurs d'énergie pour les fabriquer et puis pour les mettre en place, ce qu'on appelle les bitumes froid, puisqu'en fait il suffit de moins les chauffer pour qu'ils soient posés sur la sous-couche. Et ensuite, effectivement, est-ce qu'on est capable de, au fur et à mesure, de réduire la quantité de matériaux bitumineux, donc carbonés, donc qui viennent du pétrole, en remplaçant par d'autres types de matériaux. Et donc, par exemple, en ce moment, on travaille sur un projet où on essaye d'utiliser tout ce qui enveloppe le riz, qui est un produit qui n'est pas utilisé, puisque ce qui nous intéresse, c'est le grain de riz, et donc pour pouvoir l'injecter en fait dans des bitumes.
D'accord.
De façon en fait à augmenter la part de matériaux recyclés et biosourcés dans ce type
de pierre de coup.
Produit.
Exactement. Quelque part. Oui. Eh bien, écoutez, bravo. Merci infiniment, Luc Bousquet, pour d'avoir pris ce temps sur cette journée des Assises de l'innovation. Et puis, on vous souhaite beaucoup de succès dans vos futures réussites et on sera ravis de pouvoir les relayer à notre audience. Merci beaucoup.
Infiniment.
Merci.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
À présent, à notre micro, c'est toujours ces assises de l'innovation au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. J'accueille Louis Émilian. Bonjour Louis.
Bonjour.
Merci de votre présence à notre micro. Donc Louis, vous êtes le délégué innovation BPI France, un acteur clé dans toute cette recherche d'innovation et de mise en relation entre chercheurs et entreprise, c'est bien ça?
Exactement. Donc BPI France, gros acteur économique, sur tout le financement de notre tissu français. Moi, je m'occupe particulièrement de la zone géographique d'Île-de-France-Ouest, donc le 78, le 92 et le 95, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Chez BPI France, on a plusieurs grandes activités qui permettent de couvrir tous les besoins de notre tissu, que ça soit les petites entreprises, on va avoir l'activité de financement et de garantie bancaire. On va également avoir une activité pour des entreprises qui ont des besoins de trésorerie liés à des délais de paiement client un peu longs. On va avoir des outils pour accompagner à l'international des entreprises primo-exportatrices, parce que c'est important pour équilibrer notre balance commerciale, de vendre à l'étranger. Et donc, on a des dispositifs pour vraiment accompagner la prospection à l'international. On a des activités aussi de fonds propres. Donc, on va prendre part au capital des entreprises directement pour injecter des capitaux privés, entraîner tout l'écosystème privé du capital risque, du capital développement, pour mettre de l'argent en fonds propres et donner un élan très fort pour en faire des leaders français, européens et à l'échelle mondiale. Et bien sûr, on a l'activité du financement de l'innovation chez BPI France, qui est très important, qui est souvent au devant de la scène, parce que on parle de projets qui peuvent nous donner un avantage compétitif majeur en France. Parce que la compétition, elle va vite, avec des moyens considérables à l'international de voisins aux États-Unis ou en Chine, qui, à coup de milliards de subventions, permet à des entreprises d'avoir de mettre sur le marché des produits très compétitifs et arrive à venir sur notre marché. Nous, pour garder cette compétitivité-là, on doit donner cet élan aux entreprises avec des moyens massifs. BPI France, c'est 60 milliards sous gestion qui s'irriguent.
Dans mon émission, l'économie en direct, je reçois beaucoup d'entreprises et BPI est très souvent cité. Donc, on sent que vous êtes un acteur vraiment important dans ce domaine.
Effectivement, on a notre directeur général dit souvent que BPI France c'est un peu comme un bouquet de fleurs qui donne des nouvelles fleurs, des nouvelles branches, des nouvelles fleurs, et on a grandi, grossi
sans s'épuiser.
En termes de exactement. On a grandi et grossi en termes de moyens et en termes de couverture d'activité. Et bien sûr, donc je vous ai un peu donné l'ensemble de nos outils de financement. On a aussi une grande activité chez BPI France, c'est de l'accompagnement, parce que c'est bien de mettre des sous dans les entreprises, mais il faut aussi accompagner les entrepreneurs pour qu'ils accélèrent, pour qu'ils utilisent bien cet argent-là, pour qu'ils se connectent et se créent un réseau, un écosystème. Et donc, on a mis en place des accélérateurs qui réunissent sur les bancs de l'école une promo d'entrepreneurs qui se retrouvent. Et ça peut être typiquement des entrepreneurs de la même région géographique. Et donc, on va les accélérer pendant 18 mois. Et donc, en fait, tous ces métiers-là, du financement, de l'investissement, de l'accompagnement, ils sont recoupés par des plans stratégiques qui ont été aussi coécrits avec l'État et qui sont les suivants. On veut vachement appuyer sur l'industrie. Bien sûr, tout le monde le sait.
Il y a eu une grosse
période de désindustrialisation en France. Et donc, on doit réenclencher la dynamique. Et en fait, on s'est aussi beaucoup réveillé suite à la période Covid, où en fait, on a dû faire appel à l'étranger pour nos besoins sanitaires et nos besoins du quotidien.
Oui.
Et donc, ce qu'on veut, c'est reproduire en France pour être plus souverain, pour être plus autonome, pour aussi rééquilibrer la balance commerciale dans un contexte géopolitique qu'on sait qui est assez morose. Et donc, pour ça, il faut des industries nativement décarbonées. Très important. Les enjeux climatiques, tout le monde le sait, on est vraiment, c'est une priorité pour tout le monde. Donc, des nouvelles industries nativement décarbonées et nativement très innovantes. Ce qu'on veut, c'est avoir des industries qui soient compétitives, qui puissent avoir des bonnes marges. Et pour avoir des bonnes marges, il faut robotiser, il faut mettre de l'innovation, il faut mettre du software. Et donc ça, on pousse vraiment nos industries historiques qui sont toujours là et nos nouvelles industries à innover considérablement, et pour ça on a mis en place des outils de financement vraiment incitatifs qui permettent de déployer en fait des innovations dans les industries. On a bien sûr l'engagement climatique, on est la banque du climat.
Donner la parole à Luc Bousquet du CEREMA, qui nous a parlé de toutes leurs recherches justement sur ces nouveaux phénomènes de changement climatique.
Exactement. Et donc ça, nous, on veut avoir cet effet d'entraînement des entrepreneurs sur la transition économique, écologique et environnementale, en donnant à la fois des moyens, mais en même temps en donnant un plan d'action sur comment s'y prendre. Parce que beaucoup nous disent je suis convaincu, je veux le faire, mais je sais pas forcément comment m'y prendre. Et donc pour ça, on a des diagnostics et des experts qui sont mis à disposition des entrepreneurs pour dresser un plan d'action déjà faire le bilan carbone d'une entreprise, et ensuite quel est le plan d'action pour faire des économies tout en restant bien sûr, tout en gardant un business model qui
bien
soit
sûr,
viable et
évidemment.
Pérenne.
Donc ces accompagnements, en termes de temps, combien durent-ils une moyenne?
Alors, sur les missions où on met à disposition des entrepreneurs, des experts, c'est des missions qui durent environ une semaine, 10 jours.
D'accord.
Mais ensuite, l'accompagnement, il se fait bien sûr dans le temps
oui.
pour tout notre tissu entrepreneurial. Donc, c'est une action qu'on a commencé il y a quelques années. On est au début, on va continuer. Même les entreprises les plus mauvais élèves, on les accompagne. Ça, c'est aussi important de savoir.
Ah oui.
Parce que les mauvais élèves, il faut leur donner justement des moyens encore encore plus important pour qu'ils puissent, parce que leur impact forcément est énorme. Et donc, si on aide les plus mauvais, bah, ça va aider à rééquilibrer en fait notre moyenne. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement dans le temps avec des dispositifs qui accompagnent ponctuellement l'entrepreneur pour savoir comment faire. Et ensuite, on a des outils de financement, des mises en réseau pour pouvoir que ces innovations là. De business model ou de mise en place de nouveaux process, par exemple dans une usine, se mettent en place dans la durée.
Est-ce que cela veut dire que est-ce que vous priorisez certaines activités ou bien toutes les activités peuvent venir frapper à la porte de BPI France ?
Ah oui, toutes les activités sont les bienvenues. Modulo, bien sûr, les activités. Que le système bancaire peut difficilement accompagner, mais globalement, on couvre tous les secteurs d'activité, tous les corps de métier, de l'artisan au start-upper à l'industriel, en passant par les industries culturelles et créatives, qui sont très importantes aussi pour nous, qui est un outil de soft power énorme pour la France. Et donc vraiment, toutes les industries sont accompagnées par BPI France, ouais, très important.
Merci infiniment Louis Emilian, donc délégué innovation chez BPI France. Merci pour cet éclairage très très important.
Merci à vous. Beaucoup. Merci à vous.
Et bonne journée à ces assises.
Merci beaucoup.
Merci.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Présent à notre micro pendant ces assises de l'innovation, j'accueille Mehdi Gemar. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Merci de nous accorder ces quelques minutes pour venir à notre micro. Donc vous êtes le directeur général du CNRS Innovation.
Tout à fait.
Donc un géant dans ce domaine. Présentez-vous à nos auditrices et auditeurs.
Alors bonjour. Alors effectivement, alors CNRS Innovation, pour être précis, c'est la filiale de valorisation du CNRS.
Oui.
Et je représente aujourd'hui effectivement le CNRS qui se veut, et vous parliez de géant, en tout cas d'occuper sa place dans l'innovation. Le CNRS fait de la recherche fondamentale,
oui.
Mais fait de la recherche fondamentale au service de la société. Et au-delà de générer des connaissances, bah, c'est aussi de permettre la création d'entreprises, la création de valeur pour créer des emplois, que des entreprises puissent s'implanter. On parle de réindustrialisation, en tout cas la science peut permettre aussi ça. On peut en parler des batteries, des ordinateurs quantiques, du photovoltaïque. Et je crois que c'est une belle mission.
Est-ce qu'il y a des obstacles qui peuvent être rencontrés pour passer de la recherche fondamentale à l'application industrielle ?
Alors oui, il y en a beaucoup. Et je crois que collectivement, ce qu'on a réussi à faire, et c'est un peu finalement ce qui est illustré dans cette journée, on a réussi à travailler collectivement pour les faire tomber, ces obstacles. Alors il en reste et quelques-uns. Qui sont notamment de continuer à faire parler deux mondes qui ont appris à échanger ensemble, mais qui ont encore à apprendre entre le monde des entreprises et
le monde académique. Économique. Oui.
Tout à fait. Et je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. Et aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'un pôle universitaire d'innovation, alors qui peut sembler un peu obscur comme objet, mais qui est d'abord, avant tout, un endroit où on peut se parler, différents acteurs, hein, de la recherche au monde des entreprises, aux investisseurs, aux collectivités territoriales. Aujourd'hui, nous avions la chance d'avoir monsieur le maire, et je crois que c'est important que tous les acteurs trouvent un endroit pour parler d'innovation. Et peut-être un point important, dire que cette innovation, elle doit s'incarner dans la vie de tous les jours de nos citoyens.
Oui, ces assises sont là précisément pour favoriser ces échanges, donc sous formes différentes, hein, des networks, des plénières, des tables rondes. Vous-même, avez-vous participé à une table ronde ?
Alors, on m'a fait l'honneur d'intervenir en fait en plénière pour parler effectivement du rôle du CNRS et de sa politique autour de l'innovation. Et je crois encore une fois que c'est très important que des institutions comme le CNRS, hein, des grandes institutions comme le CNRS puisse montrer et démontrer que au-delà encore une fois de cet organisme qui produit de la science à très haut niveau, elle peut aussi avoir ses travaux, ses chercheurs et ont une envie aussi d'avoir un impact sur la vie de tous les jours de nos citoyens à travers des médicaments, à travers de la décarbonation de l'industrie. Et je crois que ce qui fait une des forces du CNRS, c'est d'être capable de couvrir beaucoup de champs d'application.
Et aujourd'hui, d'être le partenaire du PUI, de CY Transfer, le PUI qui peut, dont on est d'accord pour dire que c'est un véritable levier pour favoriser ces partenariats publics-privés.
Tout à fait, et et comme j'ai pu le dire dans mon intervention, il faut voir la création de ce PUI plus comme une étape,
oui,
comme un début de quelque chose. C'est vraiment finalement la
récompense. C'est pas une finalité, voilà. C'est vraiment
Une incarnation en fait déjà d'un mouvement qui existait et d'une envie collective depuis plusieurs années. Et moi, je suis très heureux que le CNRS ait fait le choix d'être un membre actif, prendre sa part sur tous les territoires. Et donc le CNRS est membre fondateur de 28 PUI sur toute la France.
Ah oui.
Et c'est vrai que c'est important que notre action nationale, qui est de fait territoriale, puisque les laboratoires sont implantés dans les villes.
Ne serait-ce que par votre, ancienneté. Enfin, je veux dire, le CNRS, c'est une entité.
C'est une belle maison, effectivement, avec une vraie belle histoire. Et je crois que à chaque fois que moi j'ai l'occasion de venir échanger et discuter d'innovation avec les acteurs des territoires, on a toujours à gagner. Et encore une fois, on fait des métiers très humains, où la relation humaine, le fait de vouloir débloquer des situations, passer des incompréhensions parfois, eh bien, c'est d'abord une relation très humaine, et tout ce qui permet de favoriser les échanges ne peut être que bénéfique pour le collectif.
Voilà, et probablement une grande gratification à l'arrivée.
Exactement.
Merci infiniment, Mehdi Gemar, directeur général du CNRS Innovation. Merci pour ce temps accordé à notre micro.
C'est moi qui vous remercie.
Belle journée.
Merci.
Merci.
IDFM Radio, le média valdoisien.
À présent, toujours à ces assises de l'innovation au centre des arts d'Enghien-les-Bains, j'ai à notre micro Philippe Bonne. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Fondateur et dirigeant de Midrange, mais également représentant de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Alors Philippe, comment évalueriez-vous l'impact des initiatives de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise en matière d'innovation sur le développement des entreprises locales?
Alors, les entreprises locales sont, comme toutes les entreprises françaises, en pleine transformation, et l'innovation les impacte. L'arrivée de l'IA générative, la transformation complètement de leur business model, est liée à leur capacité à intégrer de l'innovation dans leur structure. Comment ça fonctionne dans le Val d'Oise? Il y a déjà 4 thèmes qui sont abordés sur 4 secteurs différents. D'abord la cosmétique, ensuite le secteur de l'eau, le secteur de la sécurité et le secteur des mobilités avancées. Donc les entreprises se regroupent autour de ce secteur pour créer un lien via CY Transfer vis-à-vis des universités et des différents étudiants qui sont à même de leur apporter de l'innovation, soit par des méthodes nouvelles qu'ils apprennent, ils sont formés sur les méthodes agiles. Ces méthodes agiles, ils les amènent dans les entreprises afin que ces entreprises puissent devenir elles-mêmes plus agiles et se transformer. Il y a beaucoup de mentorat inversé qui se fait dans ce cadre-là, c'est-à-dire ce sont les étudiants ou les professeurs issus des milieux universitaires qui amènent leurs pratiques au sein des entreprises et forment au final les différents collaborateurs des entreprises et leur permet d'innover, de se transformer.
Est-ce que vous diriez que ce que vous venez nous décrire sont les besoins clés pour accélérer les dynamiques d'innovation dans le Val d'Oise?
Oui, bien sûr. Il faut d'abord acculturer. L'acculturation se fait à travers le facteur humain. C'est que les gens puissent se comprendre, avoir les
parler
mêmes
parler le même langage, oui.
Absolument, parler le même langage, c'est ce qui est en train de se faire. Cette proximité est d'autant plus facile que il y a une proximité physique. Par contre, il y avait peut-être une méconnaissance, soit des différentes entreprises, parce qu'elles peuvent être parfois repliées sur leur secteur d'activité ou leur géographie. Et le PUI, à travers sa mise en visibilité, permet que les entreprises identifient les acteurs universitaires qui peuvent les accompagner et qui peuvent se regrouper aussi par secteur pour se faire accompagner.
C'est ça. Au départ, un label qui pouvait paraître un petit peu obscur pour certains,
oui,
mais qui finalement est complètement le véritable catalyseur de cette nouvelle ce nouveau partenariat.
Absolument. Parce que la transformation actuelle des organisations via l'innovation, c'est quelque chose de compliqué qui n'est pas forcément complètement dans l'ADN de certains secteurs.
C'est vrai.
On parle par exemple des secteurs de l'industrie automobile. Depuis Henry Ford, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, sauf à l'arrivée de nouveaux acteurs qui portent parfaitement tout ce qui est innovation et nouvelles technologies. Et je pense à Tesla, Elon Musk, qui a révolutionné le secteur en implémentant des connaissances qu'il avait, qui fait partie de son ADN. Et c'est ce qu'on a à faire à travers ce PUI et CY Transfer, c'est que l'ADN de l'innovation et des nouvelles technologies arrive et soit partagée par les entreprises traditionnelles. Et c'est un gage de pérennité pour elles.
Merci, merci infiniment Philippe Bonne, sauf s'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je n'ai pas posée.
Non, je trouve juste qu'on a un territoire magnifique et le fait de mieux se connaître va faciliter la transformation et la pérennité des organisations en s'appuyant sur un pôle universitaire qui est extraordinaire.
Oui,
absolument. Il y a 30 000 étudiants qui sont là pour aider à la transformation du territoire. Bah, il faut que les entreprises en profitent.
Une vraie chance absolument. Pour notre territoire. Merci beaucoup pour vos réponses claires et inspirantes, Philippe Bonne.
Merci
à vous. Bonne journée à ces assises. Merci.
Bonne journée.
Au revoir.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
C'est l'économie en direct. Merci d'être resté à notre écoute. À présent, à ces assises de l'innovation, aujourd'hui, jeudi 28 novembre, au Centre des Arts d'Anguin, à notre micro, Marie-France Vautier, une femme. J'en ai pas eu tellement ce matin dans mes interviews. Donc, Marie-France Vautier, déléguée Réseau Entreprendre 95. Bonjour. Bonjour, Marie-France. Alors, Marie-France, Réseau Entreprendre ne pouvait pas ne pas être là à cette journée des assises de l'innovation. Dites-nous quel type de projet pourrait bénéficier le plus de l'accompagnement donc de Réseau Entreprendre 95.
Alors, vaste sujet, mais c'est vrai que sur les dernières années, c'était plus les créations d'entreprises, les start-up. Et là, on voit en fait une transformation de la typologie des projets qu'on est amené à accompagner. Donc, beaucoup plus de reprises d'entreprises et de projets en phase de développement. Donc, de par le parcours booster. Et effectivement, que ce soit sur de la création ou de la reprise, beaucoup plus de projets industriels et dans l'innovation.
Donc, on sait que Réseau Entreprendre soutient particulièrement les entrepreneurs, hein, et vous devenez aussi un acteur incontournable dans ce domaine.
Oui, bah de toute manière, Réseau Entreprendre existe depuis bientôt 40 ans. Et au niveau du Val d'Oise, on va fêter nos 15 ans l'année prochaine. Donc déjà le 10 avril, dans les tablettes.
Oui.
Et effectivement, nous, notre vocation, c'est d'accompagner donc les nouveaux entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans la création, mais aussi la reprise d'entreprise. Et on est en capacité, via l'accompagnement des chefs d'entreprise en activité qui constituent en fait notre pool d'accompagnateurs, qui sont eux-mêmes bénévoles, qui souhaitent donner de leur temps et participer justement à cet essor économique, donc à l'accompagnement, et on est en capacité d'accompagner les entreprises sur toutes les phases de maturité, donc de la phase d'amorçage, développement et également croissance, et en plus de proposer de l'accompagnement humain, bien évidemment un prêt d'honneur, parce que dans l'entrepreneuriat on a souvent besoin de sous, donc un prêt d'honneur qui va aller de 15 à 70 000 euros en fonction des projets.
Ah oui, donc des belles sommes quand même pour pouvoir démarrer ou continuer et perdurer.
Tout à fait, et c'est en corrélation aussi avec l'ambition des projets que l'on accompagne, des entreprises, puisque nous, notre vocation, c'est la création ou le maintien d'emplois de manière pérenne sur le territoire. Donc, effectivement, des projets suffisamment ambitieux pour prétendre à 5, 10 et au-delà en équivalent temps plein.
Vous, Marie-France Vautier, donc déléguée du Réseau Entreprendre 95. Ça a été mal orthographié, je suis désolée.
Il n'y a pas de problème.
Donc directrice, voilà, vous avez bien fait de me reprendre. Votre mission au sein de Réseau Entreprendre.
Alors que ce soit la mienne ou au niveau de l'équipe, c'est en plus une équipe 100% féminine, puisqu'on est trois femmes. Et effectivement, nous, c'est d'être les facilitatrices au sein de cet écosystème, que ce soit les lauréats que l'on accompagne, de 2 à 3 ans, même ceux effectivement qui sont sortis de l'accompagnement, et de les mettre en relation avec les chefs d'entreprise qui sont membres accompagnateurs chez nous, mais auprès des différents partenaires, que ce soit bancaires, assureurs et bien évidemment aussi auprès des agglomérations sur l'ensemble du territoire du Val-d'Oise et de certains partenaires financeurs, et notamment BPI France.
Une vraie passerelle entre tous ces acteurs.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Marie-France Wauthier, et puis belle journée à ces assises de l'innovation.
Merci.
Du PUI CY Transfer. Merci.
IDFM Radio, 98 FM.
C'est l'économie en direct. Comme vous le savez, depuis que je le répète tout à l'heure, nous sommes aux assises de l'innovation au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Et à notre micro, à présent, François Germinet, directeur du pôle connaissance au SGPI et ancien président de l'université de Cergy-Pontoise, CYU. Donc bonjour François.
Bonjour, ravi d'être avec vous.
Merci de prendre quelques minutes pour venir répondre à nos questions. Alors on m'avait dit si tu ne dois interviewer qu'une seule personne, c'est François Germinet.
Non, voilà, c'est trop d'honneur, c'est un homme.
Il faut
pas écouter tout ce qu'on vous dit.
Donc aujourd'hui, il est question bien sûr du PUI. Il y a 29 PUI en France. Quelles sont les valeurs ajoutées de CY Transfer et quel avenir pour les PUI?
La grande chance de CY Transfer, c'est que c'est dans le Val d'Oise et que oui. Le Val d'Oise est un département qui est extrêmement dynamique et qui sait que s'il ne se bouge pas et s'il ne travaille pas ensemble, eh bien, il se fera dépasser par les autres. Et le Val d'Oise a une deuxième caractéristique, c'est que c'est le département le plus jeune de France et donc il y a une richesse de la jeunesse absolument incroyable à mobiliser et qui se mobilise. Donc, CY Transfer arrive dans cet écosystème déjà favorable de ce oui. département et en plus, CY Transfer bénéficie de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche du département avec une université mais aussi beaucoup d'écoles comme l'ESSEC ou des écoles d'ingénieurs, des écoles de la chambre de commerce et puis beaucoup d'incubateurs qui ont été développés par les collectivités et donc l'écosystème était déjà très riche.
Oui.
Il commençait à se structurer de lui-même parce qu'il avait bien vu que c'était absolument nécessaire et donc c'est assez naturellement que CY a candidaté au programme Pôle Universitaire d'Innovation, les fameux PUI, et qu'ils en ont été lauréats parce qu'ils avaient déjà enclenché la dynamique. Et maintenant, nous, au niveau national, avec donc au niveau de France 2030, notre intérêt dans les pôles universitaires d'innovation, c'était d'enclencher sur toutes les principales zones du territoire où il y a de l'innovation, d'enclencher cette dynamique de fédération d'écosystèmes pour ne pas avoir uniquement les universités dans leur coin, les entreprises, oui. la R&D, les collectivités, les SAT, les Carnot,
oui, une vraie volonté de ouais. regroupement, oui.
Travailler tout le monde ensemble.
Créer vraiment cet écosystème. Et donc, ce label hein, du PUI a été délivré pour 4 ans. Quel avenir donc pour ces PUI?
Alors, on fera un travail à mi-parcours d'analyse. En général, on fait toujours ça. On lance un programme et puis en cours de route, on regarde comment ça fonctionne. Et le PUI doit permettre de, à la fin, de mieux structurer l'écosystème de l'innovation. Et avec les SAT, etc. Donc je peux pas vous dire si les PUI en tant que tels persisteront. C'était pas dans le cahier des charges initial que ça devienne une structure. Néanmoins, ça peut éventuellement le devenir. Et ce que on observe sur le terrain, c'est que le PUI devient une espèce de label.
Oui.
Et en même temps, Nasser est là sur la SAT. Si vous interrogez quelqu'un dans la rue et que vous demandez ce que c'est qu'une SAT, il va pas forcément savoir, ou une société d'accélération du transfert de technologie, il va pas forcément savoir. Si on parle de pôle universitaire d'innovation, on arrive à comprendre.
Oui, oui.
Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est un label comme quoi, ça, qui signifie que un territoire est organisé pour le transfert dans les entreprises. Et ça, c'est une vraie richesse.
Une vraie reconnaissance pour CY, dont vous êtes, j'imagine, je ne sais pas l'initiateur, mais en tout cas, vous avez travaillé à ce PUI, puisque le PUI venait juste d'être accordé quand vous êtes parti de l'université. Mais voilà, vous avez beaucoup travaillé pour cette réussite.
Alors, c'était sur la bascule où moi j'étais en train de partir et donc oui. Il y avait déjà suffisamment d'équipes très très bien impliquées dans la constitution du pays. Moi à l'époque j'avais juste dit il serait naturel que Sergi y aille, surtout qu'on avait déjà commencé avec l'ESSEC à structurer quelque chose comme CY Transfer. Mais voilà, et après les acteurs ont fait ça de manière tout à fait naturelle. On a eu l'appui de l'ASAT, Ergane. Néo qui était très proche de nous et qui l'est toujours. Et donc voilà, ça s'est fait naturellement, mais j'ai pas eu besoin, moi, de suer, de mouiller toute ma chemise. Tout était déjà prêt, c'était naturel.
La notoriété était déjà là. Merci infiniment, François Germinet, et puis belle journée à ces assises de l'innovation. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Merci. Et donc j'enchaîne tout de suite avec vous, Monsieur Tounekti. Donc vous êtes, on le comprend, de la SAT Erganeo.
Tout à fait.
Un partenaire privilégié du PUI, puisque absolument. Moi j'organise des émissions régulièrement avec CY et vous êtes cité très régulièrement dans mes émissions.
Absolument.
Donc je vous laisse vous présenter.
Oui, alors merci de votre interview. Très heureux de faire partie du PUI et de cet événement aujourd'hui, des Assises de l'Innovation. Donc moi, je suis le président de la SAT Erganeo. Alors la SAT Erganeo est un fondateur du PUI. On est 4 fondateurs, parmi lesquels il y a CY, bien sûr, le CEREMA, le CNRS et la SAT. La SAT Erganeo, c'est quoi? Nous sommes une société d'accélération de transfert de technologie qui fait partie d'un programme que l'État a mis en place. Au niveau de l'innovation pour valoriser les innovations qui sortent des laboratoires. Il y a un réseau de 13 SAT en France, chacune avec son territoire universitaire, et l'objectif est de accélérer le transfert des innovations vers le monde socio-économique, et on intervient sur toute la chaîne de la valorisation auprès des établissements avec qui nous travaillons, qui sont nos actionnaires en fait, parce que CY est l'actionnaire, est un des actionnaires de la SAT Erganeo. Nous sommes d'ailleurs présents sur 3 PUI, puisqu'on a 3 ensembles universitaires avec qui on travaille en proximité. Il y a CY avec Paris, Sorbonne Paris Nord, il y a Paris Est avec l'ensemble des établissements de Paris Est, et puis à Paris, intramuros, l'université Paris Cité. Donc on a 3 PUI correspondant à ces 3 territoires, et on est content de pouvoir contribuer à chacun,
bien sûr,
en étant en articulation avec les acteurs de chaque PUI.
Et chacun de ces PUI a-t-il une spécificité particulière, ou bien on retrouve les points communs?
Alors, il y a évidemment des points communs qui sont dans la démarche de valorisation qui est vraiment présente comme un objectif pour tous. C'est comment améliorer tous ensemble la manière de fonctionner pour valoriser les innovations dans ces 3 PUI. Après, il y a, si vous voulez, un territoire qui est marqué à chaque fois par des thématiques scientifiques ou techniques. Paris-Est, c'est la ville durable, c'est les mobilités. Paris, c'est très majoritairement de la santé.
Oui.
Et CY, il y a une multitude de thématiques qui sont à la fois le numérique, il y a aussi la santé. L'université Paris, Sorbonne Paris Nord apporte aussi cette dimension santé. Donc il y a un certain nombre de thématiques qui finalement caractérisent chacun des PUI.
C'est ça. Et diriez-vous aussi, comme beaucoup ici aujourd'hui, que ce PUI est vraiment favorable à la rencontre entre le monde académique et le monde économique?
Absolument, c'est même la vocation.
vocation. Oui, c'est la vocation.
La vocation
oui.
du PUI.
Mais je veux dire, le pari est réussi.
Absolument. Et surtout, je dirais, la dynamique a été mise en place par le PUI de CY, Transfert, puisque d'ores et déjà, à la création du PUI, ce qui est assez unique par rapport aux autres PUI auxquels nous participons, il y a déjà une cinquantaine de partenaires, notamment industriels, et de aussi de proximité en termes de collectivités territoriales et d'acteurs économiques qui font évidemment ce rapprochement, parce qu'on voit pas comment le PUI peut améliorer le transfert des technologies sans qu'il y ait ces acteurs là et qu'ils soient intégrés dès le départ dans notre démarche et qu'ils soient quelque part convaincus qu'on peut travailler ensemble et on mieux travaille ensemble.
Est-ce que les entreprises ont vraiment pris conscience de cette plus-value?
Absolument. Alors évidemment, on est dans une dynamique qui a démarré déjà depuis quelques mois, qui existait déjà. L'idée, c'est de l'accélérer, d'amplifier. Nous, ce qu'on a remarqué avec CY, c'est que les entreprises maintenant viennent spontanément nous dire, bah, avec le PUI, finalement, est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que j'ai une problématique à laquelle je n'avais pas de réponse?
Donc le virus s'est enclenché.
Voilà. comment avec la SAT, avec le CNRS, avec le CEREMA, avec l'ensemble des acteurs, on peut répondre mieux finalement à ma demande, moi, entreprise. Et c'est vrai qu'on a des projets aujourd'hui qui, pour nous, vont s'accélérer par cette proximité, ce travail collectif.
En tout cas, on vous sent très, très enthousiaste et merci pour cette énergie et cette dynamique. Merci d'avoir donc Nasser Tounekdi, président exécutif d'Erganeo. Je n'avais pas mes fiches tout à l'heure, donc
y a aucun problème.
Je vous représente. Merci.
Ravi d'avoir cette interview.
Et belle journée
à vous aussi.
Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Présent à notre micro, Isabelle Hofkens, directrice adjointe de CY Transfert. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jacqueline.
Isabelle, cette journée des assises de l'innovation était attendue. J'ai su que vous avez passé beaucoup de temps pour cette réalisation dont on constate que c'est une vraie réussite aujourd'hui.
Oui, on a passé du temps et l'équipe surtout entière a passé beaucoup de temps. Voilà, et on est content de l'affluence.
La gratification est là. Alors, il est question beaucoup de PUI, bien évidemment, aujourd'hui. Quelles seraient les futures actions de ce PUI?
Alors, le PUI CY Transfert est en sa fin de première année d'existence, avec pas mal d'actions qui ont déjà été menées, mais il en reste encore beaucoup. On a notre programme Innovation et Société pour les sciences humaines et sociales, dont on va lancer une seconde campagne. La première campagne, les résultats vont arriver d'ici la fin de l'année avec les premiers projets accompagnés. Et donc, le lancement d'une seconde campagne de candidature pour ces projets-là. On a l'incubateur dédié aux entreprises de sciences humaines et sociales qui va ouvrir en début d'année 2025 au sein de la maison de la recherche Annie Ernaux, le nouveau bâtiment qui est sur le site de l'université. Et puis on a sur l'année prochaine deux nouvelles sessions du programme CY Tech Labs qui vont avoir lieu et la campagne de candidature de la session de février est en cours jusqu'à la fin du mois et puis des actions de développement de déploiement d'outils en fait des outils qui vont être déployés pour permettre de faciliter le lien entre les industriels et les enseignants-chercheurs. Donc on va lancer en début d'année le portail de l'innovation qui va être un petit peu le site internet du PUI dans lequel il y aura pas mal d'outils dont Connecti qui est notre outil de mise en relation entre les enseignants-chercheurs et les industriels.
Alors, vous nous avez parlé de ce développement des sciences sociales. Nous avions reçu Christelle Ventura il n'y a pas très longtemps qui nous en a bien parlé. Est-ce que vous aurez un partenariat avec dans ce domaine avec l'université Sorbonne Paris Nord, parce que Monsieur Foucret nous en a dit quelques mots et donc ça m'a fait penser à
bien
Christelle.
Sûr. Oui, tout à fait. En fait, l'Université Sorbonne-Paris-Nord est un de nos partenaires du PUI. de futurs membres fondateurs. Et ils ont eux aussi un grand nombre de laboratoires de sciences humaines et sociales. Et l'objectif est de déployer ce programme sur les deux universités, bien évidemment. Et d'ailleurs, sur le premier lancement qu'on a fait là cet été, sur les dossiers qui nous ont été remontés, on a des dossiers de l'Université Sorbonne-Paris-Nord autant que de Sergi.
D'accord,
Sergi.
D'accord. Donc c'est un vrai partenariat.
C'est un vrai partenariat.
Et vous, Isabelle, dans ces futures actions du PUI, quelle va être votre action précisément ?
Alors, moi je suis co-responsable du programme CY Tech Labs, donc déjà on a avec Christelle Ventura, on a les deux prochaines sessions à mettre en place et on va devoir s'atteler à l'offre de services du futur incubateur. Donc ça va nous occuper une grande partie du début d'année puisqu'on voudrait que la totalité des services puisse y être représentée.
Merci Isabelle,
merci Jacqueline
pour ces nouvelles. On sent que le PUI va bien, se porte bien, donc bravo, merci à vous.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
IDFM, 98FM.
À notre micro, à présent, Laure Dubois-Imbéry, directrice générale déléguée départementale de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Une première chez IDFM, puisque Laure n'était encore jamais venue à notre micro. Bonjour Laure.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci de nous accorder ces quelques minutes pour cette interview. Laure, je crois savoir que la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise est partenaire de ce PUI depuis le début. Je vous laisse nous en dire quelques mots.
Effectivement, la CCI du Val d'Oise est partenaire depuis l'origine du PUI CY Transfer. Ça nous semblait une évidence, même si à l'époque c'était Bernard Cailhol qui était le directeur général. Je pense que pour lui comme pour moi, c'est une évidence. Sans innovation, point d'avenir à mon avis. Et derrière ces faits d'innovation, eh bien, il y a forcément une décision entrepreneuriale à prendre.
Et comme on le sait, je le répète très très régulièrement, toutes les entreprises sont adhérentes de la CCI. Elles n'ont qu'à venir vous trouver pour pouvoir se lancer dans l'innovation si le cœur leur en dit.
Exactement, c'est exactement cela. La CCI, c'est la maison des entreprises, de la création jusqu'à leur transfert, en passant par des questions comme les ressources humaines, le numérique, la cybersécurité, les transitions écologiques, la décarbonation. Donc, la porte est grande ouverte, elles peuvent venir quand elles veulent.
À votre avis, comment pourrait-on renforcer les collaborations entre le PUI et les autres acteurs, universités, entreprises, collectivités ?
Alors, je pense qu'on a une chance dans le Val d'Oise, on travaille tous ensemble déjà.
C'est vrai.
Et ça, c'est un atout
non
négligeable.
Pierre Puchli nous le répète
exactement.
Très régulièrement.
On a la chance d'avoir un président de la Chambre de commerce qui a cette volonté aussi. Et donc, tous les acteurs économiques, mais aussi académiques, travaillent dans le même sens. Mmh. Et on se côtoie régulièrement et on accompagne les projets autant que possible.
Alors vous, Laure, vous êtes à la Chambre de commerce et d'industrie depuis un petit peu plus d'un an maintenant.
Tout à fait.
Votre vision de ce territoire ?
Alors, c'est un territoire attachant,
oui,
avec une partie contrastée, une partie verte, green, et puis une partie plus dense à l'est, et puis avec un aéroport d'envergure internationale. Donc, c'est un territoire qui a beaucoup d'atouts, à mon avis.
Très bien. On a le sentiment que vous y avez vraiment trouvé votre place.
Ah oui, oui. Non, mais je...
Vous confirmez?
Je confirme.
Merci, Laure. Merci pour cette intervention.
Je vous en
prie. une bonne continuation à ces assises de l'innovation.
Merci.
Merci.
Bonne fin de journée.
Merci.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
À présent, nous avons à notre micro Sophie Merchat, vice-présidente du conseil d'administration de 14K à Plaine-Vallée. Bonjour Sophie.
Bonjour Jacqueline.
Merci de vous nous accorder ces quelques minutes pour un entretien. Alors, 14K est bien connu comme étant un incubateur puissant. Comment cet incubateur accompagne-t-il les projets à fort potentiel d'innovation?
Alors en fait, oui, 14K, c'est donc la pépinière d'entreprise, hein, puisque quand le nom a été trouvé, il y avait 14 000 chefs d'entreprise dans le territoire de Plaine-Vallée. Et donc nous, l'incubateur a en termes d'innovation a un rôle important. Par exemple, quand on parle de l'incubateur qui est au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains.
Oui.
Là vraiment, il y a une volonté d'encourager l'innovation, la création, et donc les projets sont sélectionnés dans cette optique-là.
Très bien. Et alors, quels sont les critères pour intégrer votre incubateur et bénéficier de vos ressources?
Alors, les critères, effectivement, c'est un projet ou un avant-projet qui est déjà bien structuré. Je crois que c'est très, très important que les futurs entrepreneurs ou les apprentis entrepreneurs sachent exactement ce qu'ils veulent faire et avoir un projet très défini, qu'ils aient déjà éventuellement réfléchi au marché sur lequel ils veulent intervenir ou se développer, et puis que leur projet soit déjà un petit peu ficelé le plan économique, avant d'aboutir, et donc le comité de sélection lui va examiner tous ces critères pour retenir les projets qui semblent les plus intéressants, et après le rôle de la pépinière, enfin de 14K, c'est d'accompagner et de mettre tout le réseau, je crois que c'est ça qui est très très important, c'est de mettre tout le réseau à la disposition des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs.
Est-ce que vous auriez un exemple à nous citer d'un cas que vous avez sélectionné et qui a bien réussi?
Absolument. Nous avons, par exemple, puisque nous sommes aujourd'hui sur le territoire d'Enghien-les-Bains, nous avons une créatrice que vous connaissez. Je crois que vous avez déjà interviewé, qui a été sélectionnée, même qui a eu un prix l'année dernière de l'innovation. C'est Cosmétange.
Ah. Oui,
et donc cette entreprise a proposé à la ville de bénéficier d'un prélèvement d'un petit peu de notre eau thermale, qui est l'ADN de notre ville, pour fabriquer des produits de beauté. Et ça, vous voyez, c'est tout à fait dans l'ADN de la pépinière, et puis de toutes les aides que l'agglomération peut apporter aux créateurs d'entreprises pour se développer. Et donc elle a bénéficié comme les autres créateurs d'un accompagnement financier, bien entendu, mais d'accompagnement juridique de l'environnement de l'entreprise. Et ça, c'est aussi très, très important, parce que on peut avoir des idées merveilleuses, et puis il faut vraiment les structurer pour réussir.
C'est ça, la force de votre réseau, c'est un accompagnement global qui permet vraiment à l'entreprise de croître et s'épanouir.
Tout à fait.
Merci infiniment, Sophie Merchat, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci. À bientôt.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Nos interviews ne seraient pas complètes si nous n'avions pas eu à notre micro Pierre Cuchely, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise et également vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Île-de-France, en charge de la réindustrialisation. Pierre, bonjour et merci d'être à notre micro.
C'est toujours un plaisir d'être.
C'est vrai, et ça fait longtemps que je vous ai pas interviewé.
Vous m'aviez plus interviewé, que vous m'aimiez plus, que vous m'interviewez plus.
Non, mais je vous aime toujours autant, Pierre.
Merci.
Donc, Pierre, quel secteur peut-être dire que nous savons combien la Chambre de commerce et d'industrie est impliquée dans la réindustrialisation et l'innovation dans le Val d'Oise. Quel secteur, selon vous, pourrait bénéficier le plus d'une collaboration accrue avec le PUI, puisque c'est le thème du jour?
Bien sûr. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas de secteur plus particulier que d'autres. tous les secteurs qui doivent faire appel à de l'innovation peuvent être concernés par le PUI aujourd'hui. Moi, je crois que, quelque part, le fait que la France a perdu grande partie de son industrie il y a quelques années, hein. Souvenez-vous d'un grand patron, souvenez-vous d'un grand patron qui avait inventé l'entreprise sans usine et à qui on a donné la Légion d'honneur. Moi, je l'ai refusé personnellement, mais on lui a donné la Légion d'honneur. Quelque part aujourd'hui, peut-être qu'il y a une opportunité à saisir, et notamment grâce à l'innovation, de repartir de zéro. On a l'avantage de partir de feuille blanche par rapport à d'autres pays autour de nous, et je crois qu'il faut peut-être en profiter pour se servir de l'innovation. La France est un pays très innovant. Alors je crois qu'on est le cinquième pays en Europe qui investissent le plus, derrière les Allemands. Mais en fait, c'est les Allemands, c'est parce qu'ils ont des entreprises plus grosses que nous. Moi, je connais bien l'Allemagne. Je suis né à 1 kilomètre de la frontière allemande. Mmh. J'ai donné 2 interviews à la radio allemande, il y a quelques années, où j'avais expliqué que la France, c'était le pays d'innovation. Que les Allemands nous copiaient, en fait. Mais nous, on a plus de mal à déposer des brevets. D'abord parce que les entreprises qui innovent sont des entreprises plus petites. Pour déposer des brevets, il faut beaucoup d'argent. Moi, aujourd'hui, il y a quelques aides, mais ça coûte beaucoup d'argent. Donc les PME, TPE françaises hésitent à déposer des brevets. Le problème, c'est qu'on innove, mais qu'après, on a du mal à fabriquer et on ne sait pas vendre. Mmh. C'est ça, notre problème. Mmh. Mais la France, c'est pile l'innovation. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment de se lever, de se dire, ben voilà, nous, on sait innover, en faisant des partenariats comme ce qui se fait dans le cadre du PUI, où tout le monde, les chercheurs, les entrepreneurs, les étudiants, ceux qui ont envie de créer une boîte, les sociétés établies, etc., tout le monde va pouvoir travailler ensemble. Et je pense que pour nous, c'est une opportunité extraordinaire. Oui. Alors, faut savoir quand même, Jacqueline, je ne serais pas complet si je ne vous disais pas quand même que le Val-d'Oise, vous le savez, c'est le département le plus jeune de France métropolitaine. Nous représentons 7% de la population d'Île-de-France et 14% du PMI. Du PIB. Je suis désolé, je suis fatigué.
On avait compris.
Et c'est quand même très très significatif. Et la dernière fois que j'ai vu Monsieur le Préfet, il me disait qu'en termes d'investissement, les entreprises industrielles du Val d'Oise sont celles qui réinvestissent le plus en ce moment par rapport à tous les autres départements ou toutes les entreprises des autres départements d'Île-de-France. Et pas juste un peu plus, non, beaucoup plus.
Beaucoup plus.
Donc c'est vraiment un signal.
Oui.
Et c'est un signal, et c'est pas grâce à la CCI, c'est grâce à tout le monde.
Oui.
C'est grâce au système, à l'écosystème, aux acteurs.
Oui, à la fédération de chacun.
Tout le monde ensemble, c'est ce travail que l'on fait. Ce travail qui nous avait inspiré, qui m'avait inspiré à une époque, ce qu'on appelle le Made in 95.
Oui.
C'est que l'on travaille tous ensemble. Il faut que ça perdure. Là, j'ai été absent quelques mois parce que j'étais un peu blessé. Mais, il faut absolument que tout le monde travaille, qu'on travaille tous les uns avec les autres. CPME, MEDEF, FFB, CMA, CCI, etc. Les associations d'entrepreneurs. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour aider à ce mouvement, parce que franchement, moi j'y crois. On a été le département oublié, maintenant on n'est plus oublié. Maintenant, là tout à l'heure j'étais à Impact PME, qui est la manifestation annuelle de la CPME. J'ai rencontré plusieurs ministres. À chacun j'ai dit, il faut venir dans le Val d'Oise, c'est là que tout se passe. Et ils m'ont tous dit, on va venir, c'est là que tout se passe. N'allez pas ailleurs. Il y en a qui a dit, venez dans l'Oise. Je dis, mais allez, vous pouvez aller dans l'Oise, mais arrêtez-vous dans le Val d'Oise avant. J'aurais plus envie d'aller dans l'Oise. Franchement, c'est le département où il se passe plein de choses. Et en termes de voilà, et je trouve que cette initiative de avec CY, c'est une très bonne initiative.
Ces assises de l'innovation,
Tout à fait. Vous savez, moi, dans le passé, j'ai souvent constaté que, d'abord, souvent, les grandes écoles en France s'appuient quand ils font des partenariats avec les entreprises, c'est avec les grandes entreprises. Il se trouve que par ailleurs, vous l'avez pas dit tout à l'heure, dans mes mandats, je suis président d'Agir Développement.
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est qu'Agir Développement? C'est une association qui regroupe plus de 100 maintenant. Grandes écoles, bac plus 3 et au-dessus. Ma première mission, lorsque j'étais président de cette association, j'ai emmené une 20aine de représentants de ces grandes écoles au Canada pour leur montrer comment les grandes écoles canadiennes, les universités, mais aussi les grandes écoles, travaillent avec les entreprises. Et en fait, ils ont eu un choc, les représentants d'entreprises, parce que quand ils sont arrivés, on leur a fait rencontrer le président de l'Université de Montréal, le président de l'Université de Sherbrooke, le président de la grande école, on a vu 7 ou 8 écoles, je ne me souviens plus des noms, mais... Tout à fait.
Oui.
J'aurais fait rencontrer les chefs d'entreprise, québécois, mais aussi français, installés là-bas. En fait, ils ont été très surpris, parce que les présidents des grandes écoles leur ont dit, mais nous, on est là pour faire du business, et surtout, on a un truc que l'on veut, on veut prendre des TPE, PME, on veut les faire grossir. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire en France. Et je pense qu'une initiative comme celle-là, c'est une bonne initiative, parce que ça va le permettre... Il faut qu'on arrive à adapter les calendriers. Moi, dans le passé, j'ai essayé de travailler avec l'Université de Sergi, j'ai essayé de travailler avec des grandes écoles. je me souviens, j'avais un projet, je n'ose pas dire quelle école, c'est une école de la chambre de commerce et d'industrie. Je suis allé voir avec une idée, un machin, ils m'ont dit, on va vous aider, etc. Je n'ai plus jamais entendu parler.
Ça n'a rien passé.
Et deux ans après, ils sont venus en me disant, ça y est, on a fait le proto. J'ai dit, attends, mais moi, je suis passé à autre chose. Il faut lutter. Et je pense qu'une initiative comme celle-là, oui, on lutte contre ça.
Je suis désolé, je parle
dans tous les sens.
Non, mais je vous confirme parce que c'est vraiment le, au travers de toutes les interviews que j'ai faites depuis ce matin, c'est vraiment ce qui ressort, ce rapprochement entre le monde académique et le monde économique. Donc votre vision pour faire du Val-d'Oise un territoire phare de l'innovation en Île-de-France est plutôt positive.
Ah, moi, elle est très positive parce qu'encore une fois, il y a de la place, il y a une motivation, il y a un état d'esprit dans le Val-d'Oise. Je pense que les entreprises valdoisiennes ont appris grâce au Made in 95 notamment à travailler ensemble, travailler avec les grandes écoles, travailler avec l'université. Je veux dire, à partir du moment où celles-ci leur tendent les bras et mettent en face des moyens et s'adaptent à leur calendrier, parce que c'est ça qui est très important, bah, ça va marcher. Ah oui, bien sûr, ça va marcher mieux qu'ailleurs.
Alors Pierre, bien, il se trouve que vous allez être notre dernier interviewé. Je vous donne le mot de la fin. Pour conclure cette belle journée des Assises de l'Innovation.
Ben écoutez, ces Assises de l'Innovation, je crois que c'est une première. Hein.
Oui.
Elles ont lieu à Enghien et sous le soleil.
Oui.
Que voulez-vous avoir de plus positif que ça? Donc c'est forcément un signe du destin. Et je vous l'ai dit avant, moi je crois beaucoup à ce projet, sinon d'abord je ne serais pas là. Mm-hmm. Je n'ai pas trop de temps à perdre.
Ouais.
Donc vraiment, je crois que c'est une superbe initiative. Il faut rendre à César, à ce qui est à César, c'est CY qui a démarché et qui a envoyé des signaux d'amour aux entreprises, mais aussi à ses représentants dans la Chambre de commerce et d'industrie. C'est une très très belle initiative et ça va marcher. Et ça va marcher d'autant plus dans le Val-d'Oise qu'on travaille tous ensemble grâce au Made in 95.
Et grâce à la CCI aussi.
Grâce à tous les acteurs. Merci.
Merci beaucoup.
Merci Pierre. À vous. Jacqueline.
Merci à vous.
Merci Frankie.
Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission spéciale consacrée aux Assises de l'Innovation organisée au CDA, le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, par le pôle universitaire d'innovation. Nous avons le privilège d'échanger avec des experts, des entrepreneurs, des élus, des chercheurs et des acteurs clés de l'écosystème du Val-d'Oise, tous engagés pour faire de notre territoire un moteur d'innovation. Un grand merci à Olivier Romain qui, pour sa confiance, a nous confié ce partage avec vous tous. Au fil des échanges, une chose est claire, l'innovation est bien plus qu'un concept. C'est une dynamique collective qui repose sur la collaboration, l'audace et la capacité à imaginer l'avenir. Que ce soit à travers la recherche, la transformation numérique ou encore le soutien aux start-up, chacun à son niveau a un rôle à jouer. Un grand merci à tous nos invités pour leur contribution éclairante et inspirante. Et merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous espérons que ces discussions vous auront donné envie de découvrir, de collaborer, peut-être même de vous engager dans des projets d'innovation. Et comme toujours, pour retrouver cette émission en podcast, rendez-vous sur notre site idfm98.fr et n'oubliez pas de rester à l'écoute de notre radio pour d'autres émissions consacrées à l'innovation et à la transformation de notre territoire. À très bientôt.